Bienvenue sur Nouvel Oeil, le podcast pour ma génération, les millennials. Je suis Victoria Guillaumont, j'ai 23 ans, et je pars à la rencontre de personnes inspirantes qui se sont posées il y a quelques années les questions que nous, on se pose aujourd'hui. À un âge où l'on se cherche, où l'on construit son chemin, et où l'on se pose beaucoup de questions sur notre avenir. Alors j'espère qu'écouter le parcours et les conseils de ces personnes qui ont rêvé, osé et qui ont de jolis messages à nous transmettre t'aidera à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Si tu souhaites m'encourager dans cette aventure, n'hésite pas à laisser un petit avis sur iTunes ou sur Apple Podcasts et à en parler autour de toi. Tu peux aussi m'écrire sur le compte Instagram Nouvel Oeil et retrouver tous les épisodes sur le site www.nouveloeil-podcast.com. Je t'invite maintenant à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser.
Un jeune ne doit pas se faire embobiner la tête par le fric, la position sociale et tout ça. C'est le cœur qui compte d'abord. On ne voit bien qu'avec les yeux du cœur. Il faut développer ces yeux-là. Un jeune, il doit vivre ce qu'il a envie de vivre. Alors, ça ne veut pas dire pas aller à l'école. Il vaut mieux avoir un bagage que pas. Mais il ne faut pas se faire enfermer la tête et scléroser la tête parce qu'à la fin, ça devient un cas dont on ne sort plus et on ne réfléchit plus. Un gars qui a envie de sculpter, qu'il sculpte. C'est de rencontrer l'homme et d'essayer de comprendre les autres. Parce que ça permet de tomber les préjugés.
André Brugiroux est de ces rares personnes qui ont consacré leur vie à visiter sans exception tous les pays du monde. Globetrotteur et écrivain, il a goûté au voyage à 17 ans et ne l'a depuis jamais quitté. Guidé par une philosophie pacifiste, une insatiable curiosité et un sens de la débrouillardise, il a voyagé pour comprendre le monde, l'humanité, la spiritualité et le sens profond de nos vies. Alors des bons à Bangkok, des coupeurs de tête à Bornéo, des hippies de San Francisco, il a vécu dans une école de yoga en Inde, dans des camps de réfugiés au Cambodge et a travaillé dans un kibbutz en Israël. Bref, des exemples qui n'en finissent plus et qui ont composé sa vie. Il a vécu en grand avec les lunettes de chaque ethnie, de chaque culture, de celles et ceux qui peuplent notre planète. Et cette vie aventureuse, elle a été guidée par une question. Est-ce qu'un jour, nous serons capables d'établir la paix dans le monde ? André a aujourd'hui 83 ans, et aujourd'hui, dans cet épisode, il nous partage sa réponse, tissée au fil de ses récits de voyage. On va pouvoir continuer notre discussion. Merci André Brugiroux de me recevoir chez vous.
Merci d'être venu.
Vous avez pris une vie sabbatique, et vous avez été nommé en 2015 comme le plus grand voyageur existant sur Terre, rien que ça.
J'ai fait que ça, j'ai rien fait d'autre. C'est pour ça que j'ai pris une vie sabbatique. Mais bon, le plus grand, ça, c'est un mot qui... Disons que j'ai rien fait d'autre que voyager, donc c'est dur à battre mon record. Mais moi, je n'ai pas fait des records. Pour moi, ça a été le désir d'apprendre qui m'a mis sur la route. Mmh. Alors, il y en a, ils me disent que je n'apprends pas vite. Bon, d'accord.
On a déjà eu quelques discussions passionnantes avant d'enregistrer. Je me suis dit, non, mais là, il faut qu'on enregistre parce qu'on loupe des choses. Et j'avais pas prévu de commencer l'interview comme ça, mais bon, c'est bien les imprévus aussi. Vous me donnerez d'ailleurs votre avis là-dessus. Mais vous étiez en train de me parler de routes tracées.
Oui, parce qu'on parlait de, pour les jeunes, qu'est-ce qu'on doit faire dans la vie. C'est vrai qu'on doit faire quelque chose, mais qu'on n'a pas les éléments, c'est très difficile. Moi, personnellement, ma vie, aujourd'hui, je suis en fin de vie, donc j'ai 83 ans. Donc je pense que, alors j'aime pas les grands mots, mais j'aurais voulu faire tout ce que j'ai fait, j'aurais pas pu. C'est un destin qui s'est passé chez moi. J'en étais pas conscient au départ, mais je vois bien que c'est clair, ça. Je pense que chacun, à la naissance, on a un petit pointillé pré-tracé, ou un couloir. On peut pas faire ce qu'on veut dans la vie. Et l'art de vivre, c'est de trouver son petit pointillé. Et c'est ça l'art de vivre, c'est d'être en accord avec soi-même, bien dans ses bottes. Moi, personnellement, au début, quand je voyageais, j'allais à travers le monde, c'était pas une vie banale, mais je savais que j'étais en accord avec moi-même, donc c'était bien. Parce que si on n'est pas en accord avec soi-même, ça grésille, on se sent pas bien. Alors, il faut trouver ce pointillé. Il y en a qui le trouvent pas.
Comment on le trouve ?
Il faut être ouvert, disponible, je sais pas. En tout cas, c'est l'art de vivre, c'est de le trouver. Mais non seulement ça, une fois qu'on l'a trouvé, ce pour quoi on est fait sur Terre, on a chacun son rôle. C'est ça qu'il faut trouver. Et ensuite, il faut le marcher, ce qui n'est pas facile non plus. Mais dans mon cas, moi, j'étais mis par la... Je reviens à la main du destin, par, sur mon pointillé. Je n'ai jamais quitté mon pointillé, j'étais heureux. L'important dans la vie, le succès dans la vie, c'est d'être heureux. Point. Il n'y a pas d'autre critère d'être heureux. Mais chacun son truc. L'important, c'est d'être en accord avec soi-même. Alors, il y en a qui doivent bouger, d'autres qui doivent rester. C'est comme dans le corps humain. Si tout bougeait comme le sang, ça ne tiendrait pas debout. Mais si tout était rigide comme des os, ça ne marcherait pas non plus. Donc, il faut les... C'est la variété, la diversité qui fait la société et chacun son truc.
Et vous, ce pointillé, c'est quand que vous avez commencé à le découvrir ? Vous avez commencé à voyager à 17 ans ? Est-ce que ce pointillé, il vous passionnait déjà avant ? Ce goût du voyage, il était là bien avant ?
Non. C'est-à-dire, mon père qui était un paysan exilé, un paysan d'Auvergne, de la Haute-Loire, qui était exilé en région parisienne où je suis né, n'est jamais sorti du jardin. Dans mes livres, j'ai écrit que son horizon s'arrêtait au bout du jardin. Chacun le sien. Mais ce n'étaient pas mes aspirations. Par contre, ma mère, qui était aussi d'Auvergne, mais qui avait voyagé un peu... Elle m'a dit « Profites-en tant que tu peux » quand je suis parti. Et je pensais pas... Moi, fils d'ouvrier, de paysan, pas d'argent à la maison. Puis je suis parti, je ne vais pas jouer au vieux schnock, mais quand je suis parti en 55, il faut quand même se resituer. Il n'y avait pas le renseignement. Le père du guide du routard venait de naître. On n'avait pas de téléphone à la maison. Alors, je ne parle pas de la télé. Il y en a qui me disent « mais comment vous n'avez pas de télé, comment vous faisiez ?» C'est une époque qu'on ne peut plus imaginer. J'avais donc pas de renseignement, et l'autre problème, c'est que j'ai pas d'argent. Donc j'ai obéi à cette espèce de destin, c'était pas clair. Donc à 17 ans, quand je suis parti, la première chose que je voulais faire, c'était apprendre l'anglais. Alors, parlons pas de l'école, parce qu'au bout de 7 ans d'école en anglais, je vais en Écosse le premier jour, je comprenais même pas « good morning », bonjour. J'arrivais pas à faire comprendre à l'autre. Il s'est trouvé que, parce qu'il y a aussi un facteur chance chez moi, c'est, d'ailleurs si je suis encore vivant, c'est un miracle total avec tout ce qui m'est arrivé. C'est un miracle, c'est incroyable. Mais le facteur chance, ça c'est autre chose, c'est parce que, alors ça va faire sourire, mais en astrologie, j'ai mon Jupiter, qui est le facteur chance, qui est placé dans la maison des difficultés, et au bon endroit, et à l'ascendant, au point fort chez moi. Donc je sais que je suis comme un chat qu'on lance en l'air, je retombe toujours sur mes pattes. Je l'ai constaté au fur et à mesure, bien sûr. Alors ça donne de la confiance en soi, ça aussi. Moi je veux faire un truc, j'y vais, je me pose pas de questions.
Donc la chance pour vous, elle est déjà là ou elle se
provoque ?
Dès
le départ, à 17 ans, elle a commencé comment ? Je voulais apprendre l'anglais, je cherchais comment y aller, mais mon père ne pouvait pas m'aider, il n'avait aucune relation, ma mère non plus. Et l'école hôtelière de Paris, en 1955, pour la première fois de son existence, organisait un stage à l'étranger. Parce qu'à l'école hôtelière, on avait un stage chaque année. Première année, le stage de salle, service de salle. Deuxième année, cuisine. Et troisième année, la réception. Donc je devais aller en réception. Et un jour, le directeur m'appelle et il me dit « Giroux, cette année, on va essayer de mettre sur pied des stages à l'étranger, avec l'Écosse. Est-ce que ça vous intéresse ?» Il prenait les trois premiers. Ah, oh, je dis « Oui, allez-y. » Il dit « Oui, mais c'est pas sûr. Et si ça marche pas, au lieu d'aller faire un stage à un hôtel de luxe à Paris, vous allez vous retrouver éplucher des pommes de terre au fin fond de la Bretagne. Mettez-moi sur la liste. » Ça a marché. Premier coup de peau. J'ai pas dit à papa « Bisous. » Je reviens dans 18 ans, mais c'est ce qui s'est produit. Parce que moi, pris dans l'élan de l'affaire, je me suis aperçu, je passais pas mon temps au bistrot, moi je passais mon temps sur les grammaires, les trucs pour apprendre. Et donc au bout de 15 mois, ils m'ont viré parce que j'avais pas fait le service militaire. J'ai essayé d'aller en Irlande pour continuer l'anglais, mais là, tous les Irlandais se sauvaient, ils avaient plus de pommes de terre à manger, ils partaient aux États-Unis. Finalement, j'ai dit, je vais apprendre l'espagnol. J'ai été me parachuter en Espagne. Pas de boulot, j'avais 4 mots d'espagnol. Et donc là, j'avais les genoux, j'avais 19 ans, là, et j'avais les genoux qui jouaient des castagnettes. Mais mes parents ne me conduisaient jamais à la gare, il y avait un kilomètre à faire, j'y allais tout seul. Même l'Écosse, le premier voyage, ils ne m'ont pas descendu, il n'y avait pas d'autocar pour y aller à la gare, de chez moi à la gare, à côté, là. Et donc j'ai dû y aller à pied tout seul, comme un grand. Je trouve du boulot le premier soir, en débarquant dans un hôtel de luxe. Je savais qu'il y avait un hôtel de luxe à Cordoue, j'étais là, Cordoba Palace, et le gars de la réception était un Français par-dessus le marché, il cherchait un réceptionnaire. Il avait fait l'école hôtelière comme moi à Paris et il me dit « on a besoin de quelqu'un, crac ». Je trouve du boulot le premier soir. Première conclusion, la chance sourit aux audacieux.
Je crois que c'est Philippe Gabillier qui dit « la chance sourit aux audacieux ».
Je l'ai constaté.
Mais est-ce que justement cette chance, elle n'arrive pas parce que vous étiez dans ce fameux chemin
J'étais sur mon chemin.
Voilà.
Oui, j'étais dans mon tracé.
Est-ce que vous pensez que si chacun trouve son tracé, les chances arrivent ?
Il y en a qui ne trouvent pas, c'est ça, qui sont mal dans leur peau toute leur vie. Mmh. Bon, moi, je sais pas pourquoi. Le bon Dieu m'aime bien. J'arrive pas à trouver d'autres réponses. Après, j'ai dit, je vais apprendre l'allemand. Je vais me parachuter en Allemagne. Alors, j'y allais sans boulot. J'avais des sandwichs pour tenir une semaine. Mm-hmm. Au bout d'une semaine, oui, il fallait que j'ai du boulot.
Vous êtes parti avec 10 francs en poche.
Oui, ça, c'est à 17 ans. Ben oui, ouais. Mais pourquoi 10 francs? Parce que l'école hôtelière m'avait trouvé un stage. Donc, on m'attendait pour travailler. Et puis, mon père était SNCF, il avait des billets gratuits. Donc, 10 balles pour payer le café en passant à Londres. Et donc, là, 10 francs, c'est juste. J'arrive en Allemagne, je voulais apprendre l'allemand pour deux raisons. Une, c'est qu'à Paris, on a la trouille d'apprendre l'allemand parce que c'est difficile comme langue. On choisit l'espagnol, ça lui ressemble tellement. La porte, la puerta, bon, ça va. Donc, l'allemand, parce que c'était dur, j'avais jamais eu un mot d'allemand à l'école. Je voulais voir si j'étais capable d'apprendre tout seul une langue. Mais il y avait une autre raison encore aussi forte, sinon plus forte. Il ne faut pas oublier qu'on s'est payé 3 guerres avec les Allemands. Ils nous ont cassé, saccagé, vidé le pays, il faut le dire. Personne ne parle de ça, mais ils nous ont cassé le pays. Et donc, j'ai voulu aller voir l'ennemi.
Oui.
Les jeunes, ils ne se rendent pas compte aujourd'hui. C'est normal, la réconciliation, tout ça. Non, ce n'est pas normal. Heureusement qu'elle s'est produite. Heureusement qu'on avait un type intelligent comme De Gaulle qui a fait cette réconciliation. Et donc, je voulais connaître l'ennemi. Mon tour du monde, ce n'est l'aventure qui me propulse. Je ne cherche pas l'aventure. Ça ne m'amuse pas d'avoir 5 mitraillettes dans les côtes, une baïonnette entre les deux yeux, un revolver dans le dos.
Qu'est-ce que vous cherchiez alors?
Je voulais apprendre, comprendre.
Et à quel moment vous vous êtes dit « Ok, je vais aller faire tous les pays du monde »
Ben, c'est venu graduellement.
Je n'ai
pas dit à mon père « Je pars à 17 ans, je vais voir tous les pays du monde ». Je ne pensais pas que je pouvais le faire. Alors au début, c'est l'idée d'apprendre des langues qui m'a fait connaître l'étranger. Et je me débrouillais bien. À chaque fois, j'arrivais sans boulot, je trouvais du boulot. Je me trouvais facilement une nana aussi. Moi, j'ai des habiletés, je ne sais pas comment je fais. Non, ouais. Bon, alors en Italie, j'étais formé pour être directeur d'hôtel. J'avais fait les hôtelières. Il y avait la fille de l'actionnaire plus riche qui voulait se marier avec moi. Caro, ti voglio bene, vas-y. Allez. La vie était tracée, j'avais l'autoroute devant moi. Et moi, je laisse tout tomber pour atterrir au Canada sans boulot. Au bout de 3 ans au Canada, on me formait pour prendre le bureau de traduction. Et il y avait la belle Charlotte. Entrée, pourquoi tu vas à Tahiti? Reste ici avec moi. Hey Charlotte, si je reste ici avec toi, je ne veux pas voir Tahiti. Donc j'avais une autoroute qui était tracée. Jolie femme, j'avais le boulot, un bon boulot, vu que je ne pouvais même pas espérer, traducteur. Et moi, je laisse tout tomber. Pourquoi? Aller sortir mon pouce.
Pourquoi? C'était une peur de l'ennui?
C'est parce que j'avais. Là, le rêve était très fort en moi. Ça grandissait parce que plus je faisais les pays étrangers, plus je voulais en connaître. Mmh. On parlait de la Thaïlande, ça m'exaltait. On parlait de tout m'exaltait. Je voulais voir le monde, une curiosité d'esprit insatiable. Et là, j'ai dit, là, je lâche tout. Je lâche l'autoroute. C'était plus fort que moi, je n'avais même pas le choix. J'ai dit, je vais voir le monde. Mais j'avais peur. J'avais 30 ans et tout l'expérience dernière, moi, j'avais encore peur de partir seul. J'avais essayé de m'acoquiner avec des Australiens pour aller en Amérique du Sud, tout ça, ça n'a pas marché. Et puis je me prends un avion pour le Japon, je regarde un peu le Japon, je prends un avion pour l'Inde, le tour de l'Inde, et après un autocar, je rentre en France, que là, beaucoup de gens font, hein, un cercle. Mm-hmm. Je ne pensais pas ce qui m'attendait, je ne savais pas que j'allais faire le tour du monde en stop. Je ne savais pas. Donc finalement, j'ai trouvé 2 Canadiens qui partaient dans un taxi londonien vers l'Amérique du Sud. Les gars, ils n'avaient aucune idée de rien. Je leur ai dit, vous ne pourrez pas le faire, votre tour. Et pourquoi? Parce que la voiture doit avoir un passeport pour la trimballer aussi. Donc, ils ne savaient même pas. Ils n'avaient aucune idée, les gars. Alors, bon, ils ont fait leur permis et je suis parti avec eux. Ils cherchaient un troisième. On ne s'entendait pas du tout. Tant qu'on était aux États-Unis, ça allait. Ils bouffaient leur saloperie, leur crêpe, leur bout de carton, leur cornflakes, tout ça. Enfin, tout ce truc. Là, ils jubilaient, là. Mais quand on arrive au Mexique, ils parlaient pas un mot d'espagnol. Mais moi, je commençais à revivre. Je me retrouvais dans le monde latin, chez moi. Pas dans le monde anglo-saxon, j'étais chez moi tout d'un coup. Et eux, ils sortaient plus du taxi, ils buvaient de la bière. Et j'étais heureux, ils m'ont balancé toutes mes affaires hors du taxi un matin à 5 heures. Ils m'ont dit, fous-nous la paix, dégage, bon. Et moi, j'étais heureux comme tout, j'étais libre.
C'est quoi la liberté?
La liberté, c'est d'arriver à faire ce qu'on a envie de faire. De choisir au moins, c'est ça. C'est ça qui m'a intéressé, c'est le cœur de l'homme.
Vous avez tiré une conclusion de tous ces voyages, c'est que la Terre n'est qu'un seul pays.
Voilà, c'est ça.
C'est d'ailleurs le titre de votre premier livre et d'un film aussi, je crois, qui a été publié.
Oui, la Terre n'est qu'un seul pays.
Pourquoi?
La phrase complète, c'est la Terre n'est qu'un seul pays et tous les hommes en sont les citoyens.
Oui.
J'ai tenu 6 ans sur la route, j'ai réussi à faire mon tour, et je me suis demandé, mais pourquoi je suis en train de faire ça? Au bout d'un moment, d'ailleurs, quand je fais les conférences, les gens me disaient, pourquoi vous avez fait tout ça? Parce que je me suis retrouvé 7 fois en prison, par exemple. On m'a pris pour guerriero, espion, pirate de l'air, n'importe quoi. Mais moi, j'étais plus que 7 fois, parce que des fois, c'est moi qui demandais pour y dormir, comme je n'allais pas à l'hôtel. Alors, j'allais voir la prison principale, je frappe à la porte, ling, ling, ling. Vous n'auriez pas une petite cellule de libre, là, pour moi, je fais le tour du monde en stop, j'ai mon duvet. Ah, ils disaient oui ou non. Quelques pays m'ont pris. Mais là, la différence, c'est que je sortais le lendemain. Mais quand je demandais pas moi, je n'avais pas de date de sortie. Ça, c'est angoissant. Également, j'ai été déporté, viré de plusieurs pays. J'adore, c'est gratuit. C'est eux qui payent. L'astuce, c'est se faire déporter dans la bonne direction. Donc, je suis tombé malade aussi. Bon, j'ai attrapé une dysenterie. Enfin, il s'est passé un tas de trucs, mais je me demandais pourquoi je suis en train de faire ça.
À quel âge vous vous êtes demandé ça?
Alors, dès le tout début, au bout de quelques années, je me disais, mais pourquoi je fais ça? Je savais que c'était juste. Mmh. J'étais en accord avec moi-même, j'étais heureux, j'étais bien dans ma peau. Être bien dans sa peau, c'est ça la clé du succès. Et donc, je continuais parce que j'avais le plaisir. Pour faire une chose dans la vie, que ce soit peu importe laquelle, le tour du monde, sculpter, peindre, peu importe. Même élever des enfants. Il faut d'abord avoir envie, et deuxièmement, y trouver du plaisir. S'il manque un des deux éléments, on ne peut pas faire. Moi, j'avais plus qu'envie, d'ailleurs, et je planais. J'ai plané toute ma vie, j'ai trouvé un plaisir immense. Moi, j'apprécie, même aujourd'hui, je vois un truc qui est beau, c'est beau. Je ne suis pas blasé du tout. C'est beau, c'est beau. Et donc, je me posais la question. Et au bout de 3 ans de stop, bien sûr, j'avais un tas de questions en tête. J'ai voyagé, je dis bien, c'est pour apprendre, pour comprendre. Et je suis né avant la guerre.
Oui.
Mes premiers souvenirs de la vie, c'est la guerre, oui. Mais pas la guerre à la télé. La vraie de vraie. Les Boches, ça bombardait. Moi, il y a un avion qui est tombé derrière chez nous, là, Brunois, qui est pas loin d'ici.
Donc forcément, ça a éveillé des questions en vous dès très jeune, tout ça.
Inconsciemment, j'ai voulu rencontrer les hommes du monde entier, c'est bien, c'est inconscient au départ, pour savoir si un jour ils vont être capables d'établir la paix. C'était ma quête ou mon enquête, parce qu'il fallait être motivé très fortement pour tenir dans des conditions pareilles. Moi, je raconte ça d'une façon un peu amusante, mais quand même dur, chaque soir, c'est où je dors. Au point où, au début, j'avais la trouille à 3h de l'après-midi. Où est-ce que je vais dormir ce soir? Mais après, je me suis aperçu qu'à 9h, j'étais pas au même endroit que 3h. Alors, je me suis dit, avant de paniquer, attends 9h. Puis à la fin, j'étais tellement entraîné que j'y faisais même pas gaffe. 9h, 10h, j'avais sommeil, je dis, purée, où je vais dormir?
Et donc, vous faisiez quoi? Vous toquiez chez les gens pour dormir?
Non, je frappais pas aux portes.
Vous dormiez où?
J'avais mon duvet, il fallait que je le mette dans un coin où je pouvais. Alors, un coin où je pouvais dormir. C'est-à-dire un coin que j'allais pas être dérangé par les. Dans les villes, il ne faut pas être dérangé par les gens, les flics, les chiens. Qu'est-ce qu'il fait là? Donc il faut se planquer. Mais un corps humain se planque facilement. Le problème, c'est quand il fait moins 45 en Alaska, il veut mieux trouver un coin au chaud. Alors ça, c'est risqué. Donc, non, je n'allais pas frapper aux portes. Moi. Je pense que le voyageur doit être indépendant. Il faut aimer les gens, voilà la clé. Et si on a l'habilité d'aimer les gens, et d'aller au fond du cœur des gens, on est partout chez soi. Il n'y a plus l'étranger. Moi, j'ai vu l'homme, mon frère. J'allais pas là-bas en France, tout est vieux. La curiosité grandissait et je voulais savoir inconsciemment, mais est-ce qu'un jour les hommes vont être capables d'établir la paix?
Et donc, vous pensez qu'on en est capable?
Ça s'est passé, c'est en Alaska, à l'endroit le plus froid, où j'ai trouvé la réponse la plus chaude, j'allais dire. Je suis tombé, j'étais déposé dans un village couvert de neige, un village d'Indiens. Il fallait que dans les 5 minutes, j'ai un abri au chaud, là. Faut pas rigoler dehors, hein, parce que sinon, la mâchoire était gelée, je pouvais plus parler. Et il y a un Indien qui est sorti, et je lui ai demandé où est-ce que je pouvais dormir comme ça. Et il m'a dit, tiens, voilà, il y a des Vista Volunteers, c'est des corps de la paix pour les États-Unis, des jeunes idéalistes. J'y vais là, et puis je suis arrivé, je lui ai demandé, est-ce que je peux passer une nuit chez vous, là, je fais le tour du monde en stop. Ah, pas de problème, rentre. Puis ils m'ont dit, on ne sera pas là ce soir, on va à une réunion Bahaï. Bahaï. C'est un nom qui est inconnu des Français pratiquement. Le H est aspiré en plus. C'est pas Bahaï, c'est Bahaï. Mm-hmm. En France, on n'a pas le H aspiré sauf pour les haricots. Donc, j'aurais dit, qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est un mot d'anglais que je ne savais pas. Et c'est ça qui a enclenché toute la réponse.
Du coup, juste pour resituer, le Bahaï, c'est une religion monothéiste qui proclame l'unité spirituelle de l'humanité. Parce que même, oui. Moi-même, je ne connaissais pas avant de faire mes recherches.
Oui, c'est pas cool. Donc, moi non plus, je ne sais pas ce que c'était. Alors, j'ai demandé ce que c'était. Alors, le gars, le monsieur Bahaï qui est venu, il est rentré dans la pièce, il m'a fait « Hey, you must be the crazy Frenchman. Le français tout fou, parce que le stop est interdit en hiver en Alaska. Et moi, il me suivait à la radio tous les jours. Le crazy Frenchman, on l'a vu à tel endroit. On ne sait pas où il est aujourd'hui. Ils auraient pu me foutre en prison. Au lieu de me mettre en prison, ils m'ont mis dans la première page des journaux. Et il m'a dit, ce bonhomme, il m'a dit, et tu vas où ? Je dis, je vais à Valdez. Il dit, c'est là où j'habite, je serai de retour dans 3 jours. Et il m'a dit un truc incroyable. Il me dit, eh ben, si tu es encore là dans 3 jours, viens dîner avec moi. Il m'a donné son adresse. Quand on fait le tour du monde en stop avec $1 par jour, qu'on a une adresse comme ça, un dîner, une invitation à dîner, même pas besoin de l'écrire, on retient dans la tête. Hein. Et donc, ça a été j'ai rencontré ce premier Baha'i, et il m'a dit, je lui ai demandé ce que c'était, il m'a dit qu'une phrase. Il m'a dit, on travaille pour l'unité du monde. Et moi, j'ai pensé, bah, bon courage les gars, qu'à avoir la pagaille aujourd'hui. Hein. Et c'est tout. Et après, il m'a dit, t'aimes lire, il m'a donné un livre. Là, j'avais toutes mes réponses. Mais au-delà de ce que je pouvais imaginer, tout d'un coup, toutes les fumées que j'avais dans la tête, toutes les incompréhensions, c'était clair comme de l'eau de roche. Je ne suis pas prof d'histoire, mais qu'est-ce qui fait avancer la civilisation des hommes ? Il y a deux forces. Pourquoi ? Parce que l'homme a une double personnalité. Il y a le côté matériel, physique, et le côté que j'appelle spirituel. Déjà, ce mot-là, ça en défrise la moitié des Français.
Ah oui.
Je vois pas quel autre mot je vais prendre. Matériel et spirituel. L'important dans la vie... C'est pas d'être plus matériel que spirituel ou plus spirituel que matériel.
C'est un équilibre.
C'est de 50%, 50%. Pour l'individu comme pour la société, tout simplement. C'est pas être spirituel, c'est pas s'asseoir en tailleur et puis les yeux tournés vers le ciel pendant 3 jours de suite. L'homme a besoin d'être guidé parce que pour établir la paix, tout va dépendre de l'individu. C'est l'homme qui est en question. Il y en a qui disent l'argent fout tout en l'air. Non, c'est l'homme qui fout tout en l'air. L'argent, je mets un billet de 20 sur la table, 20 euros. Il ne va pas rester longtemps, mais ça ne fera ni bien ni mal. Mais l'homme qui est derrière, suivant ce qu'il fait avec, s'il fait des tanks ou des hôpitaux, ce n'est pas la même chose. C'est l'homme. Il ne faut pas se défalquer sur le fric. C'est l'homme. Si l'homme était honnête, on n'aurait pas tous ces travers avec l'argent. L'homme est créé bon. Victor Hugo disait ça d'ailleurs. Seulement, il y a un hic dans l'affaire. C'est qu'il est créé bon seulement potentiellement. Et le but de sa vie... Il a là sa libre volonté, c'est de développer ce potentiel de qualité et de vertu. C'est ça.
Comment on peut le développer ?
Alors, eh ben voilà, la question est là. Qu'est-ce qui peut permettre à l'homme de développer ses qualités et vertus qu'il a intrinsèquement au fond de lui-même ? Ben, je ne connais pas de chose plus adaptée, plus forte, que le message spirituel qui est révélé, prenons les mots, régulièrement tous les 500 ans.
C'est quoi ce message ?
Le message de base, qui est l'appel aux valeurs. C'est l'appel aux valeurs, parce qu'à Paris, on ne peut pas dire les valeurs spirituelles, on a les valeurs tout court. C'est dans le message de base. Si chacun, dans les pays différents, retournait à son message de base, il n'y aurait aucun conflit, ils sont identiques.
Bien sûr.
Autrement dit, l'homme a besoin d'être instruit. Et le rôle du messager divin, peu importe, alors quand je dis ça, Bouddha, Krishna, le Christ, Mahomet, en fait... qu'une religion. C'est le même livre d'instruction pour tout le monde. C'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui. Il n'y a qu'un seul livre, mais comme tous les livres, comme celui que vous avez écrit, je suis sûr aussi, il y a beaucoup de chapitres.
Donc, vous le lirez, vous me direz.
C'est les mêmes... Il n'y a qu'un seul livre d'instruction, mais tous les 500 ans, il a apporté un nouveau chapitre à l'humanité qui est en constante croissance. Les valeurs expliquées par la révélation Baha'i qui a eu lieu en Perse au 19e siècle, il n'y a rien de nouveau, ça a déjà été dit. Donc on ne va pas tomber des nues, on ne va pas tomber sur le derche. On les a déjà eues. Mais ce qui est intéressant dedans, c'est que pour la première fois, on a le mode d'emploi. Comment appliquer ça ? Aimez-vous les uns les autres. Parce que même si c'est la plus belle phrase du monde, si elle reste en l'air, elle ne fait pas avancer la civilisation. Mais là, pour la première fois, parce que tout est expliqué pour esprit adulte. Il n'y a plus de fumée dans les têtes, plus de tout ça est clair. Et on a le mode d'emploi. Comment s'aimer les uns les autres ?
Et ça, alors ça... comment ?
Bon, il faut se plonger dans ses écrits, je ne vais pas entrer là-dedans, mais un plan administratif mondial pratique pour gérer cette terre comme un seul pays, comme une seule entité politique. Pas beau, ça ? C'était farfelu au 19e siècle, on était chacun dans notre coin, ça ne servait à rien. Mais aujourd'hui, qui va nier cette nécessité, ce qui a changé par rapport au 19e siècle, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de distance. Avant, on était chacun dans notre coin, maintenant, on est tous dans le même bateau.
C'est vrai.
La Terre n'est qu'un seul pays. C'est de donner les moyens d'abord, créer l'individu dont on a besoin. Pour faire la paix, il faudra des hommes de paix. On ne va pas faire la paix avec des excités de Parisiens qui voient que le feu est rouge, ça passe au vert, si on ne démarre pas, on risque un coup de couteau. Non. Il faut déjà une cellule saine. Donc, première chose, c'est de se changer soi-même, si on veut changer le monde.
Ça, je ne peux pas être plus d'accord que.
C'est pas. On va pas changer le monde, mais si on change soi-même,
oui.
Alors ça demande un effort. Il n'y a pas de miracle là-dedans. Et là, demander un effort, s'améliorer et tout ça, ça intéresse personne. Non.
Mais alors notre humanité, vous l'imaginez comment dans 20 ans ?
Bon, alors, la paix se fera, parce que au moins on a un plan, mais pas un plan d'inspiration humaine. C'est l'inspiration, il faut prendre les mots, divine. Il ne faut pas rêver. La paix ne sera pas par idéal, bon sens et intelligence. Il n'y en a plus. C'est les événements qui vont nous coincer. Et je regrette de dire, mais ça va faire plaisir à certains qui me prennent pour un utopiste, c'est que dans l'immédiat, on ne va pas vers la paix, on va dans le mur.
Oui.
On court à une catastrophe comme jamais on aurait eu. Alors, le Covid, c'est bien gentil, mais à mon avis, ça, c'est le hors-d'œuvre.
Bien sûr, il y aura bien pire.
C'est le hors-d'œuvre. En tout cas, c'est les événements qui finiront par nous coincer, parce qu'on regardons dernièrement, on a eu 2 guerres mondiales, des millions de morts, et on n'a encore pas compris, on continue exactement pareil. On est encore prêt à se bouffer le nez, à s'aplatir. Donc, mais une fois que la secousse sera passée, j'ai aucune idée de ce que ça sera. Mais moi, je pense que ça sera ma petite étude à moi. Mais bon, j'ai pas le bac, hein, pour m'écouter. Je pense que ça sera une 3e guerre mondiale. On va pas l'échapper à celle-là. Après, il y aura plus d'autre choix que de passer de cette compétition de cow-boy à la collaboration, au travail en commun. C'est ça le truc. C'est-à-dire, c'est un tournant à 180 degrés. Il ne se fera pas par là, je répète, coincé par là. Mais on a comment diriger toute cette énergie humaine. Parce que la bonne volonté est là, même aujourd'hui. La plupart des gens veulent vivre en paix.
Bien sûr.
Et le monde est perturbé par quelques zigotos qui veulent. Il y en a, ils sont prêts à entasser tous les dollars et tuer tout le monde pour entasser des dollars.
Ce basculement, il arrive bientôt, vous pensez ?
Alors, je n'ai pas de date. J'ai pas de date, mais vu. On ne va pas dans le bon sens. D'un moment, ça va craquer. La Première Guerre mondiale a craqué sur un assassinat. Mais parce que tout était prêt. On a mis l'allumette dans l'étoupe. Donc là, les choses... Comment on règle les trucs ? Ça sent le... On n'a pas... Les hommes n'ont pas la solution. Ça va craquer. Mais je n'ai pas de date. Ça peut durer encore, mais ça ne peut pas durer éternellement.
Et aujourd'hui, si vous aviez un conseil à donner aux jeunes, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire ?
Bon, moi je crois qu'un jeune ne doit pas se faire embobiner la tête par le fric, la position sociale et tout ça. C'est le cœur qui compte d'abord. On ne voit bien qu'avec les yeux du cœur. Il faut développer ces yeux-là. Donc, je pense qu'un jeune, il doit vivre ce qu'il a envie de vivre. Alors, ça ne veut pas dire pas aller à l'école. Il vaut mieux avoir un bagage que pas.
Bien sûr.
Je ne suis pas contre le bac et tout ça, moi je n'ai pas eu, mais c'est bien. Mais il ne faut pas se faire enfermer la tête et scléroser la tête, parce qu'à la fin, ça devient un cadre, on ne sort plus, puis on ne réfléchit plus. Parce que c'est grave aussi, comme ils enseignent. Donc, il faut avoir un bagage. Bon. Mais ensuite, voyager, est-ce que c'est important ? Oui et non. L'important, je dis, c'est d'être... Un gars qui a envie de sculpter, bah, qu'il sculpte. Il y a des gens, ils sont heureux sans bouger. Donc c'est ça, il faut des qui bougent et des qui ne bougent pas. Mais si un jeune, aujourd'hui, peut avoir la chance de voyager... Quand je dis voyager, c'est pas d'aller mettre son cul au Sheraton. Ça, c'est pas voyager, c'est pas voyager, c'est faire des vacances. On a le droit d'en faire.
Ouais.
Moi, c'est de rencontrer l'homme et d'essayer de comprendre les autres. Parce que ça permet de tomber les préjugés. Ouais. Première chose, se débarrasser des préjugés, juger avant. Donc, je vois pas à quoi ça sert de voyager comme ça. Non, celui qui va le cœur ouvert et qui veut comprendre et aimer... Il s'agit d'aimer les autres pour que ça marche, le voyage. C'est simple. Eh bien, il va s'enrichir d'une façon qu'il ne peut même pas imaginer. Deuxièmement, moi, je le dis sincèrement, mais on est libre. Moi, le premier, je suis libre. Je n'aime pas qu'on me casse les pieds. Mais ceux qui cherchent vraiment, qui ont des questions de fond sur la vie, comment faire pour soi-même, pour la société, je pense que ces écrits Bahá'í donnent des réponses pour adultes et claires. Ce n'est pas du tarabiscotage. Personnellement, je n'ai pas trouvé de meilleure réponse. Si j'en trouve une meilleure, je cours le dire tout de suite. Mais c'est même assez... Moi-même, j'étais étonné, je ne suis pas parti pour ça. Mais, et là, quand j'ai compris, au bout de 3 ans, j'ai découvert ça, j'ai compris pourquoi je voyageais. J'ai dit, ah, voilà pourquoi j'étais sur la route. C'était pour trouver des réponses, quoi. Et je les ai trouvées là, personnellement. Maintenant, je n'ai pas trouvé d'autres trucs qui pouvaient comparer à ça.
Le bonheur, c'est quoi pour vous ?
Le bonheur, c'est d'être en accord avec soi-même, c'est ça. C'est ça le bonheur. On est bien dans sa peau, on est en accord avec soi-même. Moi, je suis heureux. Je pense que j'ai réussi ma vie dans ce sens-là. Maintenant, il y a autre chose dans la vie que j'ai constaté. Je pense qu'on est un peu comme des marionnettes. On agite les bras et les jambes, tout content. On s'excite. Mais en fait, on ne tire pas les ficelles. Ce n'est pas nous qui tirons les ficelles. C'est ça qu'il faut comprendre. Je ne pense pas qu'on tire les ficelles. Moi, j'aurais voulu faire ce que j'ai fait, je ne l'aurais jamais fait. Les jeunes, pour s'exprimer, la plupart, ils font pétarader la mobilette, il faut qu'ils braillent un peu.
Ou qu'ils fassent des stories sur les réseaux sociaux.
Ils se coupent les cheveux en zazou avec une crête verte. C'est pas les cheveux qui comptent, c'est ce qui est en dessous, à mon avis. Mais bon, passons. Ils sont libres, en tout cas. Mais ces jeunes aux États-Unis, ils se sont dit, mais le but de la vie, ça ne peut pas être la grosse bagnole et entasser des dollars. Il doit y avoir autre chose. Donc, ils cherchaient des valeurs spirituelles. Et c'était magnifique. Et ils se sont dit, les blancs, les noirs, les jaunes, il n'y a qu'une espèce humaine. Il n'y a pas de différence au fond du cœur des gens, aucune. Et les différences, c'est pour la beauté. Si on met un jardin qui avec la même fleur, même si c'est des roses, c'est monotone, c'est intenable. Si on met des fleurs différentes, le jardin est magnifique. Donc les fleurs ne se battent pas entre elles en plus. Elles sont plus intelligentes que les hommes. Il faut parler des mêmes choses, avoir le même sens sur les mots. Quand j'écris un livre, je vais vous l'offrir d'ailleurs.
Oh, c'est gentil.
Je vais vous l'offrir, parce que comme vous cherchez, sinon je ne l'offrirai pas. Mais j'explique mon apostolat.
André Brugéroux, pourquoi avoir dit oui à cette interview?
Parce que j'ai des choses à dire, et si je peux les dire et que j'ai un moyen, je ne refuse jamais. Et en plus, j'ai bien aimé votre attitude, la curiosité. Je n'ai jamais refusé, sauf une fois. Parce que vraiment, c'était pas valable. Des petits jeunes, bon, ils sont bien gentils, ils ont la casquette à l'envers et tout, mais... Ils vont venir avec leurs joints là, et tout ça, bon non. Il y en a, j'ai vu un hippie, il fumait le matin, j'ai dit, mais pourquoi tu fumes toi, pourquoi tu fumes un joint là? Il dit, parce que la vie est plus belle comme ça. Ah bon? J'ai dit, la tête embuée, tu fais n'importe quoi, ta vie est plus belle. J'ai dit, moi, tu sais ce que c'est, la vie est plus belle, c'est me lever le matin avec la tête claire et qui fonctionne.
Ah,
c'est
merci.
Ça pour moi la belle vie.
Oui.
Le reste, non. Parce que, bon, c'est à la mode les joints. Moi, j'ai jamais fumé. Il a fallu, pour tâter les joints des hippies, il a fallu d'abord que j'apprenne à fumer une cigarette. Je partais de loin. Bon, ça n'a pas duré longtemps parce que moi, avoir la tête embuée et rire bêtement et puis tout ça, encore ça, c'est le moins dangereux, le joint. Mais il faut dire qu'à force d'en prendre. Bon, moi, j'ai dans mon premier livre une histoire d'une droguée à l'héroïne. Elle avait plus de place dans le bras pour faire des piqûres. J'étais acheté de l'héroïne avec elle et il ne voulait pas lui vendre parce qu'il croyait que j'étais un flic. Il faut voir les trucs. Enfin, c'est. Elle était dans sa pièce en train de se faire ça. J'ai découvert l'héroïne, comment elle fabriquait ça. Elle pompe, elle chauffait l'héroïne, elle prenait pour faire la piqûre. À ce moment-là, il est rentré un abruti dans la pièce où elle était, dans l'hôtel, avec un revolver comme ça, puis et tout est paniqué en sueur. Et c'est un copain, elle dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit, je viens de flinguer un marin, je croyais qu'il avait 800 dollars sur lui, j'ai trouvé que 10 dollars. Ah bon? Mais moi, j'étais allé dans la pièce, il va peut-être penser que j'ai 800 dollars aussi. Et j'ai paniqué, là. Et le bon Dieu m'aime bien, j'ai réussi à gagner la sortie rapidos.
Mais c'est vrai que même nous, on nous dit, en tant que jeunes, on va nous dire profite de la vie tant que t'es jeune, comme si profiter de la vie, c'était justement prendre des substances illicites et boire beaucoup d'alcool, faire des soirées. Et moi, je me dis, mais au contraire, il faut se réveiller le matin avec la tête au clair pour profiter au maximum de sa journée.
Profiter, c'est profiter qu'on est en santé, qu'on a toutes les possibilités. Il faut profiter de ces possibilités. Mais se pinter à l'alcool, je vois pas. L'homme devient une bête. Même fumer, à la limite. Pour moi, quelqu'un qui fume, c'est un bébé. Il tète encore. Il faut qu'il tète encore à 40 ans. Mais arrête, t'as plus 6 mois, là. Sans compter tous les dommages qu'on connaît maintenant. On a beau écrire le tabac tue, ça fume allègrement. Ça, je comprends pas.
Surtout qu'on commence, personne n'aime sa première latte.
Voilà.
On commence pour faire comme tout le monde.
Et l'art de la chose, c'est de ne pas commencer.
Oui.
Parce que, par exemple, chez les Bas, il y a un truc qui bloque tous les Français. Et pas que les Français, les Allemands, l'Occident. Pas d'alcool. Sauf pour raison médicale, bien entendu. Je n'ai pas d'être fanat non plus, mais... Pas d'alcool. Ça, c'est un truc qui est très dur pour les Français, qui est un pays de pinards, d'alcool et tout. Moi, j'ai ma fille... Elle n'a jamais touché à l'alcool. Et un jour, je lui dis, mais Natacha, elle s'appelle. J'ai dit, Natacha, on était dans un banquet, il y avait du vin sur la table. Je lui dis, tu veux pas goûter un fond de vin rouge pour voir comment c'est le goûter? Et elle m'a dit, oh non, papa, ça me dégoûte. Donc elle n'a aucun effort à faire. Le tout est dans l'éducation. La clé pour tout ça, c'est l'éducation, ah, l'éducation oui. propre. Bien Donc, sûr. Si elle n'a pas été formée à ça, effectivement, ça la dégoûte, il ne faut aucun effort. Mais le français, moi, j'ai fait l'école hôtelière, j'ai un cahier d'œnologie, mais épais comme ça, avec tous les vins de France, où ils sont produits, quel goût ils ont, avec quelle place ça va. J'étais garçon en Allemagne, j'avais appris tous les vins allemands pour le travail. Donc, je sais ce que c'est. Je connais tous les alcools. Et c'est vrai que quand on est habitué avec un peu de rouge sur le fromage, c'est pas évident d'arrêter. Mais bon, l'idée, c'est de piger qu'il n'y a qu'une espèce humaine. On est tous frères. Voilà. C'est pas sorcier.
Merci beaucoup, André Brugirou.
Voilà, temps. Merci d'être venu. Victoria, quel beau nom.
Ah, merci. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que ce moment t'a inspiré, qu'il t'a questionné ou fait rêver, d'une manière ou d'une autre. Si tu souhaites retrouver les notes de cet épisode et suivre toutes les aventures de Nouvel Oeil, retrouve-moi sur le site internet www.nouveloeil-podcast.com. Aussi, tous les mois, je t'écris sur la newsletter de Nouvel Oeil. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Tu pourras t'y inscrire directement sur le site. Si tu souhaites m'écrire pour me poser des questions, me faire des suggestions d'invités ou me donner ton avis tout simplement, tu peux le faire directement via Instagram sur la page Nouvel Oeil. Je réponds à tout et ça me fait toujours énormément plaisir de recevoir vos messages. Aussi, toute dernière petite chose, si tu souhaites m'encourager dans cette merveilleuse aventure, la meilleure manière de m'aider, c'est tout simplement d'en parler autour de toi, de partager cet épisode s'il t'a plu et de me laisser un petit avis sur Apple Podcasts ou iTunes. Ça prend vraiment 2 minutes, promis, et je t'assure que ça fait toute la différence. Si on en est là aujourd'hui, si Nouvel Oeil grandit autant chaque semaine, c'est grâce à vous tous, à celles et ceux qui ont relayé l'aventure et qui m'encouragent chaque jour. Alors un immense merci. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.